Alors bonjour à tous. Alors je voudrais commencer par un chant. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne aussi. Que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Voilà, alors ça c'est tiré de Matthieu 24, verset 6, et de l'Apocalypse 22, verset 17. Et ça m'était inspiré, j'avais vraiment ça sur le cœur, de commencer avec ce chant. Juste avant les vacances, au mois de juillet, j'étais au travail, et j'étais avec un de mes collègues, un jeune collègue, il a 20 ans, et je témoigne de ma foi. Et je lui dis, je ne sais pas comment on est arrivé là, mais je lui dis, écoute, moi, mon espérance, c'est le retour de Jésus. Et il m'a regardé, mais il a été complètement stupéfié par ce que je lui disais. Je lui dis, tu crois à ça? Pourtant, il est chrétien, il a eu une formation. Ses parents l'ont emmené à l'église catholique. Il a donc, il a passé son baptême. Enfin, toute cette. Et il n'a pas retenu cette espérance que Jésus allait revenir sur terre. Voilà. Donc, il y a parfois chez les chrétiens des confusions. Et notamment quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'effectivement, tout est terminé. Il n'y a plus qu'à évangéliser, voilà, puisque c'est le commandement de Dieu, de Jésus, aller sur la terre et évangéliser toutes les nations. Et puis, attendre le retour de Jésus. Mais quand on prend les écrits grecs, il ne s'agit pas de « tout est accompli », c'est autre chose. Ce qui est écrit, en fait, c'est « le but est atteint ». Ça n'a pas du tout la même signification. Jésus a atteint son but. C'est pas terminé. Et il a atteint son but, pourquoi ? « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Je t'ai glorifié sur la terre. Et maintenant, tu vas glorifier ton Fils. L'heure est venue. » Alors ça, c'est vraiment important. Parce que rien n'est terminé. Dans la Bible, il y a de nombreuses prophéties et qui ne se sont pas encore réalisées. Et elles concernent, pour la plupart, elles concernent Israël et d'autre part, les nations. Donc, on devrait être attentif à ce que dit la Bible et ce qu'elle peut nous enseigner. Alors, je veux parler des promesses de Dieu qui ont été faites à Israël. Et donc de nombreux prophètes et de nombreuses prophéties parlent de la fin des temps. Et tous ont annoncé que si Dieu était allé châtier son peuple pour ses infidélités au temps de la fin, il lui ferait grâce, il le ramènerait dans le pays où il le rétablirait. Donc ça c'est une espérance. Pour Israël, Dieu va les établir, leur donner un pays. Et c'est depuis 100 ans, c'est ce qui se passe. Sous nos yeux, on voit Israël se reconstruire. Le peuple d'Israël est semblable aux ossements desséchés. Ils se rassemblent des quatre extrémités de la terre. Aujourd'hui, il y a la moitié des Juifs qui sont en Israël. Notre moitié encore dans le monde. Et tout ça rassemblé vraiment dans un tout petit pays. C'est un petit pays tout sec, aride, enfin quand ils sont arrivés tout au moins. Parce qu'aujourd'hui, il est fertile. Israël vend des fruits partout dans le monde. Et ça, c'est ce qui avait été prédit par les prophètes. Vraiment, il y a une bénédiction là qui est vraiment importante. Ils sont aussi extrêmement évolués au niveau technologie. Ils sont les quatrièmes au pays, quatrième mondial, je dirais, pour la technologie. C'est vraiment incroyable. Alors, concernant les signes annonciateurs de la fin, Jésus a dit dans Luc 21-24, ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations de Jérusalem. Ils seront captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'étang des nations soit accompli. Alors ça, c'est arrivé. À savoir que dans l'an 70 de notre ère, on va dire, hein, 70 ans après la naissance de Jésus, c'est la dispersion. Israël est détruite. Et le frémissement du retour commence avec Théodore Herzl, qui est un jeune journaliste hongrois, qui, en assistant au procès du capitaine Dreyfus à Paris, a entendu la foule remplie de haine. Il a entendu « mort aux Juifs ». Il aurait entendu encore « mort à Dreyfus », on aurait pu comprendre, mais là c'était « mort aux Juifs ». Et là, Herzl a compris que le peuple juif était en danger. Le peuple en Europe, le peuple juif était vraiment en danger, qu'il fallait partir. Donc l'année suivante, à Bâle, ça a été le premier congrès sioniste qui posait les fondements du retour en Sion. Et ça, c'est fait avec Herzl, qui a donc mis en route ça. Et à partir de là, je dirais, c'est le commencement. 51 ans plus tard, le 15 mai 1948, c'est Ben Gourion qui proclame à Tel Aviv la résurrection d'Israël. Alors ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Qui pouvait prédire que Israël aurait un pays, que les nations lui leur donneraient un pays? C'est arrivé. Alors, dans la Bible, il y a une réponse. Ézéchiel 37, 12. Alors, la prophétie des ossements, hein, des ossements desséchés. Mais je ne peux pas tout lire parce que c'est très long. Donc j'ai fait des choix. 37, 12. Alors, prophétise donc et dis-leur ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Bon, c'est écrit. Alors, les sépulcres, on peut dire aussi tombeaux. Ce sont des tombeaux. Et on peut dire qu'effectivement, qu'en Europe, les Juifs étaient quelque part dans les tombeaux. À la fin du 19e siècle, en Russie, et en Pologne, il y avait des pogroms. On organisait des pogroms. C'est-à-dire que les popes fanatisaient les chrétiens. Ils fanatisaient. Et le vendredi saint, eh ben, on allait tuer du juif. Et pourquoi faire? Ben pour venger le sang du Christ. C'est quelque chose de... Voilà, ça s'est fait. Et ça, les chrétiens on doit demander pardon à Dieu pour cette action qu'on vraiment on n'aurait pas dû faire ça. Donc Israël retourne chez eux. Le peuple d'Israël retourne chez eux. Et je dirais qu'avant cette période-là, Israël, les gens pouvaient rentrer chez eux, ils rentraient sur Israël, mais c'était souvent pour y mourir. Je suis vieux, je rentre sur la terre promise et je vais y mourir. Et à partir de ces moments-là, ça bascule, c'est-à-dire que non, on rentre là-bas, en Israël, non pas pour y mourir, mais pour y vivre. Et là, ça change la donne. Et donc, Israël devient très vite un mélange de peuples, puisque tout Israël est éparpillé dans le monde entier. Et les dirigeants israéliens sont inquiets parce que comment allons-nous devenir un peuple ? Comment allons-nous devenir une nation ? Alors, ils font venir des sociologues, des Américains notamment, qui avaient fait des études sur l'Amérique, parce que l'Amérique, aussi, c'est un gros mélange. Et au bout de 3 semaines, ils ont donné leur verdict, et bien ils ont dit, voilà, messieurs les dirigeants, il vous faudra 4 générations pour qu'il y ait une nation en Israël. Alors là, c'était la catastrophe. Les dirigeants, 4 générations pour faire un peuple, c'est beaucoup trop long. Et 10 ans plus tard, ces mêmes sociologues sont revenus, et ils ont fait 3 semaines d'études, ils sont revenus voir les dirigeants, ils ont dit, on comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais c'est une nation. Israël existe. 10 ans. Et là, je dirais qu'il y a la main de Dieu, quelque part, qui souffle sur le peuple. Et là, on va lire donc Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et bien, c'est ce qui se passe. Toutes les personnes qui vont en Israël sentent que l'esprit est là. Il y a un souffle vivant du Dieu vivant. Sur Israël. Tout ce qui se passe, c'est incroyable. Alors, dans le texte, il est marqué mort. Et en fait, quand on prend les écrits hébreux, et quand on regarde le mot, c'est pas mort, c'est massacré. Et là, le mot massacré prend une autre dimension, parce qu'on peut très bien voir ce qu'ont vécu les Juifs. Eh bien, on les a massacrés. La Shoah, tout ce qui s'est passé, les pogroms, ce sont un peuple qui a été massacré. Voilà. Et donc, l'Esprit de Dieu, des 4 coins du monde, va souffler sur Israël. Ézéchiel 37, 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Voilà. Dans les montagnes d'Israël. C'est le retour des Juifs dans leur pays, qui est annoncé ici dans la prophétie. Mais là, on a un petit problème, parce que tous les Juifs que nous connaissons autour de nous, en Europe, ça concerne 2 tribus. Or, Israël compose 12 tribus. Et les Juifs sont convaincus que Israël ne peut vivre qu'avec ces 12 tribus. Donc aujourd'hui, il y a 2 tribus, qui est la tribu de Juda et de Benjamin. Il y a aussi les Lévites qui sont là. Mais les Lévites sont les descendants de la tribu sacerdotale, donc les Lévites, qui n'avaient pas de possession au sein des peuples d'Israël, du point de vue territorial. Donc, on parle des peuples, des 12 tribus, ce sont ceux qui avaient des territoires. Donc, nous avons perdu 10 tribus, et elles sont jamais revenues dans le pays promis. Lorsqu'a eu lieu le premier retour en exil en 535 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très loin. Ça fait 2500 ans qu'ils ne sont pas revenus. Et la plupart des historiens pensent que ces tribus ont été assimilées parmi les nations et que de fait, elles ont cessé d'exister. Et en fait, on en a retrouvé. En 1984, on retrouve une tribu, la tribu des Dan, les Falachas. On les a retrouvés en 84 et ce sont des descendants de la tribu de Dan et ils sont menacés d'extermination. Et donc ça, c'est en Afrique noire. Il y a 1800 juifs qui vont être massacrés. Israël est là, ils font un pont aérien, 72 heures de pont aérien, ça n'arrête pas. Et ils sauvent les 1800 personnes. 18 000, pardon. 72 heures. C'est un miracle. Et puis, il y a une association qui s'est créée, une association juive, qui s'appelle Amishav, Mon peuple revient. Et donc, ils ont fait des études, ils ont cherché. Et bien, ils ont trouvé. Ils ont trouvé en Afghanistan, à côté d'une zone aussi en Inde, le Cachemire, le Pakistan, en Birmanie, dans la Chine, la Corée, le Japon. Et bien dans ces régions-là, c'est la dispersion des 10 tribus. Ils ont tous retrouvé. Et donc au jour d'aujourd'hui, ils invitent ces gens qui ont gardé, c'est ça qui est incroyable, ils ont gardé des choses de la Torah, parce qu'ils ont, il y a toute une partie de leur culture qui a été oubliée. Enfin, pas oubliée, ils ne l'ont pas eu. Mais ce qu'ils ont reçu, ils l'ont gardé, et ils ont continué à croire en leur Dieu éternel, Adonai. Donc voilà, donc aujourd'hui, Israël se rassemble. Aujourd'hui, en France, il y a 150 familles qui partent de France par semaine. C'est dommage parce que ce départ est bien souvent est lié à on se sent plus bien en France. C'est un mal vivre. On les rejette. Mort aux Juifs. On a entendu ça à la télévision il n'y a pas longtemps. Pour les Juifs qui vont rester, moi j'ai envie de dire restez. Il y a des gens qui vous aiment. Il y a des églises qui vous aiment. Voilà. Toute la France n'est pas mauvaise, non. Donc, pour ceux qui s'en vont, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour ceux qui resteront, c'est une bénédiction pour nous. Voilà. Donc, l'année dernière, j'avais une intuition. J'étais venu ici, j'en avais parlé. Israël se rassemble. Le peuple chrétiens se rassemblent et doivent se rassembler. Et j'avais dit à Robert, peut-être que c'est Vision 50 qui est en route. Eh bien, je pense que oui, c'est Vision 50 qui est en route. Et je dirais même c'est une vision mondiale. Je pense que si Dieu veut triompher, veut montrer sa gloire au monde entier, eh bien, il le fera de façon éclatante. Il va toucher chacun d'entre vous et il va toucher aussi des gens qu'on ignore. De tout, on ignore qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils seront touchés par la grâce. Et par rapport à ça, j'ai été moi aussi touché lundi soir. J'ai très mal dormi et de 3h à 4h du matin, l'Esprit Saint m'a rappelé une histoire qui m'a touché et qui m'a apporté un enseignement. À l'âge de 20 ans, j'étais avec des amis, avec Philippe, un bon ami. Et j'étais souvent dans leur famille, puisque le papa, d'abord la maman est décédée, et le papa, quelques mois plus tard, est décédé. Philippe avait 17 ans et quelques mois. Et il a été nommé tuteur par le juge. Et il a donc gardé ses cinq, enfin, la fratrie. Il les a gardés. Et je dirais que ça n'était pas facile pour lui. Quelque part, j'étais moi, le grand frère extérieur qui venait et qui avait un œil extérieur et qui était un peu plus vieux et donnait des conseils. Et voilà. Donc j'avais une bonne, un peu une autorité, quoi, quelque part. On est parti en vacances en Norvège, tous ensemble. Et il y avait Sylvie, qui avait 16 ans, et qui tournait mal quelque part, parce qu'elle avait... Quelle injustice, sa mère, son père, et la relation avec son frère. Elle rentrait dans l'adolescence, la relation ne se passait pas bien. Et elle avait rencontré un copain, elle voulait quitter la maison, ce garçon n'était pas, visiblement, pas terrible. Et après une très grosse dispute entre Philippe et Sylvie, je suis intervenu et j'ai été parler avec Sylvie. Et ce que je lui ai dit, c'était pas pour la blesser, mais je voulais lui ouvrir les yeux. Que si elle continuait dans cette voie, eh ben, elle aurait vraiment des misères. Prostitution, galère, crime, enfin je sais plus ce que je lui ai dit. Mais ce que l'Esprit Saint m'a montré, et j'ai pleuré pendant presque une heure. L'Esprit Saint m'a montré que j'avais donné des paroles de condamnation. Et comme j'avais l'autorité sur elle, elle les a prises comme telles. Je crois que j'aurais dû lui dire, écoute, tu vaux quelque chose, tu as de la valeur. J'aurais dû lui dire ça, au lieu de l'enfoncer, de lui dire qu'elle avait de la misère, qu'elle voilà, non, j'aurais dû lui dire, tu es une jolie femme, tu as l'avenir devant toi, choisis un homme, continue tes études, elle a abandonné ses études. Voilà. Et en fait, quelque part, je voyais où elle allait, et j'avais peut-être plaisir à dire, voilà, tu vas devenir ça, voilà, je voyais son avenir, quelle affaire, quoi. J'étais un voyant quelque part, c'était pas une bonne affaire. Non. Je demande pardon vraiment à cette fille. J'ai demandé à l'Esprit Saint de lever cette malédiction, où qu'elle soit touchée par l'Esprit Saint, et que cette malédiction que je lui ai donnée soit enlevée. L'enseignement que je porte là-dessus, c'est que Dieu va nous envoyer des hommes et des femmes pour le réveil. Ne portons pas de jugement. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils ont fait, ne portons pas de jugement sur ces gens. Dieu les a choisis, ils viendront ici ou ailleurs, mais ne portons pas de jugement. Et j'ai été touché aussi, ma famille a été touchée par autre chose. Je vais finir là-dessus. Sabine et moi, on se promenait. C'était le dimanche de la braderie de Lille. Et on est allé voir ma sœur à Ronchin. Donc, au retour de la promenade chez ma sœur, je vois une planche comme ça posée sur le mur. C'est à Ronchin, il n'y a rien. C'est pas la braderie à Ronchin. Il y a une planche comme ça posée. Et moi, je m'approche, je vais directement, hop, je soulève, je tombe sur un livre. Voilà. Alors, bon, on peut être... Moi, je crois à l'Esprit Saint. J'en suis convaincu. Et l'Esprit Saint m'a envoyé un message, nous envoie un message. Donc, j'aimerais, moi j'ai eu le temps de réfléchir, et j'ai deux pistes sur le message de ce livre. Mais je voudrais vous faire participer et me dire, ce livre de cuisine juive, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? C'est vraiment, moi j'ai été touché parce que je me dis, ça, c'est vraiment pour nous, pour le monde aujourd'hui. La cuisine juive, c'est une image, hein, c'est une métaphore. Mais je pense que j'aurais reçu une Bible juive, à la limite, je n'aurais pas compris. Que là, on peut comprendre tous ensemble la même... Oui, bah, oui, c'est une bonne idée, oui, je n'avais pas pensé à ça. Ouais. L'os de l'agneau, oui. Les quoi? S'enrichir de différences, oui. Mélanger les ingrédients. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, moi, la première chose qui m'a touché, quand j'ai pris le livre, que je suis parti, je regardais ce livre et puis je me disais, mais pourquoi un livre de cuisine? Pourquoi? Mais, voilà. Pour aimer la cuisine, une cuisine qu'on ne connaît pas, il faut la goûter. Et donc, on fait plusieurs plats. Donc, pour aimer Israël, il faut y venir régulièrement, parler d'Israël, avoir un cœur pour Israël. Donc, voilà. C'est pas de la cuisine qu'on va faire, non, mais c'est revenir régulièrement sur Israël et avoir un cœur pour Israël. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, mais plus tard. C'est un livre de cuisine juive. Voilà. Que ceux qui ont soif, et je dirais que ceux qui ont faim, viennent. Eh bien, venez manger la parole juive. Venez manger et boire ce qu'il y a dans la Bible. Avec des yeux différents, c'est-à-dire qu'on doit dire la Bible, ce sont les juifs qui l'ont écrit. Jésus est juif, c'est le roi des juifs. Et là, voilà, le livre de la cuisine juive. Merci Seigneur. Amen. Hop là. Alors voilà, je vais terminer par une prière. Voilà. Donc, Jésus nous a dit, je t'envoie pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Ça, il faut y croire. Donc c'est par la foi. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça, faut bien s'en rendre compte. C'est un don de Dieu. Donc Dieu touche chacun d'entre nous. Nous avons été touchés. Après, on y répond, on n'y répond pas. Et pour le réveil, ça sera pareil. Des hommes et des femmes vont être touchés par Dieu. Et c'est un don. Voilà. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.